Vous écoutez
RMC. RMC, le Mosca.
Alors, c'est une coupe du monde sur trois pays. Donc Mexique, c'est parti très fort, c'est un pays de foot. Le Canada a battu le Qatar 6-0 hier et a bien lancé sa coupe du monde. On espère que ça soit aussi le cas pour les Américains qui ont une très belle équipe. Ils ont fait une très belle impression face au Paraguay.
Pierrot, juste la blessure du petit Koné au Canada, là, terrible.
Il s'est fracassé la jambe.
Jambe fracturée.
Fracture, ouais.
Et donc, les États-Unis, on les retrouve contre l'Australie à Seattle. Cette équipe américaine est-elle capable d'emmener le peuple américain derrière elle? On va essayer de le vérifier au Texas avec Xavier Grimaud. Salut Xavier.
Salut Xavier.
Salut Grimaud.
Salut messieurs. Salut.
Alors tu as traversé le Texas de part en part pour les besoins de cette Coupe du Monde.
Alors, de part en part, c'est très grand, hein. C'est très très grand.
T'as fait Texas, Houston, Dallas, je crois comme trajet.
Houston, Dallas, voilà.
Alors est-ce que c'est les Texans sont derrière leur équipe nationale?
Non. Alors vous allez voir. On va quand même commencer par globalement le positif. Il y a un engouement les jours de match de l'équipe nationale, au moins dans les villes où la sélection joue. Voilà, il y avait une bonne ambiance à Los Angeles. Il y aura une bonne ambiance à Seattle. Et il y a 25 millions de personnes qui ont regardé le match entre les États-Unis et le Paraguay. C'est le match de soccer le plus regardé du pays dans l'histoire du pays. C'est félicité la FIFA. Ça c'est pour le positif. Après, non, on ne sent pas une grande ferveur générale pour la compétition. Alors tu l'as dit, je suis au Texas. J'ai roulé entre Houston et Dallas. Je me suis arrêté dans les petits villages et dans les petits villages et dans les villes un peu plus moyennes. La Coupe du Monde, elle est quasi invisible. Et même chez Bucky's, alors c'est une sorte de station-service XXL à l'américaine où il y a des milliers de choses à vendre. Il y a un tout petit stand avec des objets de la FIFA et clairement, il intéresse personne. On peut écouter ici dans ce bar de Dallas, un bar de sport où il y avait plusieurs écrans branchés sur du sport. Il y en avait un seul qui diffusait le match de la Coupe du Monde. C'est Michael, le barman.
This is not normal. Ce n'est pas normal. Du soccer à la télé, il n'y en a pas tout le temps. Mais la Coupe du Monde est vraiment importante. On a beaucoup de fans qui viennent ici. D'habitude, on diffuse plutôt du football. La saison des Dallas Cowboys, on a le stade en plus qui est tout proche. Et si vous êtes tout seul, est-ce que vous mettriez le soccer sur l'écran? Oh non, je mettrais plutôt un film. Maybe a movie.
Un film plutôt que du foot. Alors je lui ai demandé s'il connaissait la règle du hors-jeu. Il n'était pas très au clair, hein, quand même. Deuxième exemple, dans la ville plus modeste de Huntsville.
Brendan Charbonnier.
Huntsville, c'est à une heure de Houston. Il y a 40 000 habitants. Alors j'ai réussi à trouver un sports bar qui est tenu par Christiane plutôt. Il est salvadorien. Il a tenu à enfiler d'ailleurs un maillot du PSG, Pierrot, hein, pour me répondre. Et quand je lui demande quelle équipe est la plus attendue ici dans son bar, il ne me cite pas Team USA.
Well, Mexico number one, and then I'll say Argentina number two.
Le Mexique numéro 1, et je dirais l'Argentine numéro 2. Il y a une grosse population mexicaine ici à Huntsville. Tout le monde veut encourager son pays pour qu'il fasse de belles choses, vu que la Coupe du Monde est ici.
Voilà, donc il avait un peu de monde hier devant son écran géant pour la victoire des Mexicains face à la Corée. Il espérait 150 personnes, c'est pas fou non plus. Y en aura-t-il autant tout à l'heure pour le match des Américains? A priori, c'est sûr que non.
C'est à 21h heure française à Seattle, donc USA, Australie. C'est quand même une belle petite équipe, les États-Unis, Brendan. Hein.
Oui, on l'a vu sur le premier match. Il y a des bons joueurs, mais je m'attendais pas à ce qu'ils mettent 4-0 quand même. Mais non, je pense que ça va être une belle surprise de cette Coupe du Monde. Alors de là à dire qu'ils iront dans le dernier carré, peut-être pas. Mais je pense qu'ils peuvent faire un bon parcours, et surtout pour un pays qui on l'a vu, s'intéresse pas du tout au foot.
Au foot, au soccer.
C'est triste, c'est dommage pour eux, mais non, c'est une très, très belle équipe.
Et puis il y a Turquie-Paraguay à 5h du matin. Autre affiche de la nuit, c'est le Brésil qui joue Haïti à 2h30 à Philadelphie. Alors toujours sans Neymar. Et toujours avec les mêmes interrogations qu'en début de compétition, Aurélien Tiercin. Salut Aurélien.
Salut Pierrot. Ouais, exactement, parce que le Brésil s'est fait rouler dessus contre le Maroc, surtout en première mi-temps, lors de la première journée. Alors on essaye quand même de désamorcer ça du côté de la presse brésilienne en disant, mais vous vous rendez compte, le Maroc aujourd'hui c'est une excellente sélection au niveau mondial, donc là il va falloir monter en pression lors de la compétition. Et globalement tout le monde reste assez tranquille grâce à la sérénité du sélectionneur Carlo Ancelotti, qui est une idole pour les Brésiliens. On écoute le sélectionneur Carlo Ancelotti.
Je pensais qu'on ferait mieux, mais la pression du maillot brésilien a un impact. Je comprends le ressenti des joueurs. Bien démarrer, ce n'est pas le plus important, il faut être résilient.
Voilà, résilient. J'ai même croisé Denilson, hein, l'ancien de Bordeaux et du Betis, qui m'a dit, non mais attendez, là on va jouer contre Haïti, l'important ça va être de marquer des buts, emmagasiner de la confiance pour faire mieux encore contre l'Écosse et terminer premier du groupe. Donc il y a encore de l'ambition, même si tu l'as dit Pierrot, il y aura pas Neymar, on espère le voir peut-être pour le dernier match de groupe. Alors l'attaque, ce sera Vinicius, Rafinha, Cunha. Et ceux-là, il va falloir se mettre un petit coup de pied aux fesses pour faire rêver les Brésiliens, parce que pour l'instant, c'est tranquille, il n'y a pas trop de pression. Mais le curseur va devoir quand même s'élever assez fort ce soir contre Haïti, et évidemment marquer beaucoup de buts.
Mais Cunha en avant-centre?
Ouais, exactement. Alors, okay. Igor Thiago peut-être, mais selon Globo Esports, selon les spécialistes brésiliens, ce sera Cunha avec Rafinha et Vinicius devant.
Après, Eric, on disait, les favoris vont monter en puissance dans la compétition. Faudrait pas écarter le Brésil trop vite quand même. Ils étaient bien mieux en deuxième mi-temps quand ils ont fait des ajustements contre le Maroc. Hein.
Ouais.
Non, t'es pas convaincu.
T'as pas l'enthousiaste là.
Non, moi je trouve qu'ils ont une génération moyenne. S'il n'y a pas Neymar sur le terrain, ouais, Rafinha ou Vinicius, ok, offensivement. Mais le reste, je trouve que c'est. Enfin, je sais pas, j'arrive pas à croire. Hein,
Marquinhos, très haut niveau.
Le problème, Eric.
La part d'Ancelotti.
T'as pas l'air.
Le Brésil, ils me font pas rêver.
Mais attendez, la situation de Neymar, Vincent, là, c'est un fiasco en fait.
Ils l'ont pris parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement.
En fait, il a sélectionné un joueur blessé.
Non, le problème, c'est que c'est la mentalité.
Il est pété.
C'est la mentalité du foot. Les mecs au foot croient toujours que Ronaldo, il peut jouer, que Neymar, il peut jouer. C'est les mecs qui ne jouent plus à haut niveau.
Est-ce qu'on va le voir, Neymar?
Mais au foot, on a ce genre de truc de conserver nos idoles le plus possible en te disant, comme c'est un sport. C'est pas un peu individuel.
Pour Ancelotti, ça lui va. Hein. Il passe aucun test médical. Il est blessé.
Il l'a pris, donc il s'est acheté la paix.
Il s'est acheté la paix politiquement parce qu'il a pris.
Il a pris des pressions pour. Arrêtons de faire des débats sportivement sur lui.
Mais il n'y en a aucun débat.
Les mecs restent sur une vieille idée qu'il peut faire un truc. Il peut plus faire un truc comme Ronaldo. Il peut plus. Donc arrêtez. Le Brésil, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Les 15 premiers jours de la Coupe du Monde, c'est du flamireil. Tu joues Haïti, les mecs qui jouent ça. Il n'y a pas d'intensité, il n'y a rien, c'est nul. On va attendre ce qui devrait être d'entrée de jeu, c'est-à-dire 30 ou 40 équipes qui se rencontrent.
Vincent, ce qui est inquiétant, c'est qu'ils sont fait bouger par les Marocains, une grosse nation.
Le Maroc, ils ont fait une demi-finale la dernière fois. C'est pas pareil, ils sont pas champions, mais enfin bon.
Moi, je dirais plutôt qu'ils ont réussi quand même à revenir face au Maroc, qui est une des meilleures équipes de ce
pendant 30 minutes. Ils ont pris un bouillon terrible.
Après, c'est une bonne équipe. Oui, le Brésil, on va voir. Mais arrêtez avec Neymar. Est-ce que Neymar peut jouer? Arrêtez, si Ronaldo, on le voit, c'est du sport de haut niveau. Arrêtez vos fantasmes et vos rêves.
Allez,
c'est
on zappe la Coupe du Monde et on va changer de sport. Le judo avec Morgane Maury. Salut Morgane.
Bonjour l'équipe.
Salut Morgane.
Bonjour à tous.
Puisque Teddy Riner présentait hier à Paris un de ses business, une gamme de boissons énergétiques. Et Morgane, on en a profité pour faire le point sur sa planification jusqu'à Los Angeles. Il aura 39 ans et évidemment, on va pas le voir beaucoup en compétition d'ici là.
Hein. Oui, parce que Teddy Riner a déjà beaucoup de batailles sous la ceinture. Une qualification olympique, c'est un marathon et pas un sprint. Elle débute ce week-end en Mongolie et s'achèvera en juin 2028, un mois avant les JO. Deux saisons où les 12 meilleurs résultats des judokas seront pris en compte. Objectif, se classer parmi les 17 meilleurs de sa catégorie pour obtenir un Bristol pour la Californie. Son premier rendez-vous, ce sera le 30 août à Lausanne, un nouveau tournoi du calendrier. Riner n'a plus combattu en compétition individuelle depuis sa démonstration au JO 2024 à Paris, soit 2 ans. Il a un peu modifié son staff avec l'arrivée de Darcel Yandi comme entraîneur. Et si tout se passe bien après la Suisse, direction les Mondiaux en octobre en Azerbaïdjan, Riner choisit ses combats entre Tokyo 2021 et Paris. 8 compétitions. L'Olympiade précédente où il avait été gêné par des blessures, 7 sorties seulement. Il n'y a qu'un seul rendez-vous qui embrasse son cœur.
Moi, mon cas est un peu particulier, c'est que ça fait tellement d'années que je suis sur le tapis qu'aujourd'hui, c'est pas forcément les tournois ou les championnats du monde qui me font vibrer, c'est vraiment les Jeux Olympiques. Quand on a vécu ce qu'on a vécu à Paris en 2024, c'était juste extraordinaire. On demande, et c'est surtout ça qui me fait encore continuer. J'ai envie de revivre ce que j'ai vécu, même si je sais très bien que ça sera jamais, jamais ce qu'on a vécu à Paris. Mais je vais aller chercher à ma façon cette adrénaline, ce plaisir d'être. Encore une fois, une dernière fois sur des Jeux Olympiques.
Riner préserve son corps et sa motivation comme un trésor. Depuis son sacre parisien, ses 3 titres olympiques en individuel, record du japonais Nomura égalé. Il est escorté par une nouvelle légèreté, mais pas sans ambition. À Los Angeles, il peut disputer ses 6e Jeux Olympiques. Alors Vincent, 2 records encore possibles pour lui. Être le seul à 4 titres individuels, donc 4 titres solo au JO, et devenir à 39 ans le plus vieux champion olympique en judo. Il est déjà le plus vieux à 35 ans. Mais le deuxième plus jeune a seulement 32 ans.
Ouais.
Alors, parfois. Non, mais c'est hallucinant quand même. 8 compètes en 2 ans. C'est ce qu'il a fait la dernière fois, ça l'a pas empêché d'être champion olympique, mais c'est fou.
Oui, mais après il a un tel bagage, il a une telle avance sur tout le monde, que 39 ans, pour moi, c'est pas très vieux, quoi. Tu vois, en poids lourd, il y a pas.
Là, ça commence quand même. Hein.
Oui, mais ça commence.
Quand tu vas t'attraper un mec de 25 piges.
Ça fait 20 ans qu'il est dans le circuit, ça n'existe pas.
Mais quelle est la concurrence? Et en plus, le bagage qu'il a des trois.
Il a encore de l'avance pour toi.
Des trois médailles d'or, il a une avance considérable, il connaît son corps, il sait soigner, il sait ne pas s'user, il fait les compétitions qu'il faut au bon moment. C'est que de l'entretien à 39 ans. Moi, ça me surprend pas que ce mec-là soit là en 39 ans. Encore une fois, c'est les combats, t'en fais pas 50 par an. Voilà, il a des mecs, bien entendu, il est chez les gros de 140 kilos. T'en as pas un dans tous les pays. Donc s'il s'applique bien, il peut y arriver.
Et un peu comme Didier Deschamps, il a besoin de cette année.
Il a besoin de l'année d'Anil, mais comme il a fait la boisson énergétique.
Merci, Brendan. Merci beaucoup, Pascal Tocho. Avec plaisir.